Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Bonjour Célia.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès, sur Nutri Radio, ça nous fait plaisir parce que on apprend et toutes les émissions nous font plaisir, mais vous êtes la seule docteure en neurosciences que nous avons. Et donc...
Que nous ayons,
à ma prof de français qui a fondé tant d'espoir en moi. Et je viens de faire cette faute incroyable. En tous les cas, c'est pas le souci, mais peut-être que si. Peut-être que si je connaissais mieux mon cerveau, eh bien, je n'aurais pas fait cette faute. Car aujourd'hui, voyez-vous, avec Célia Morel, c'est ce que nous allons vous proposer. Nous allons partir à la découverte de notre cerveau. Et notamment sur la composition de notre système nerveux pour démarrer. Vous allez voir, c'est quand même fascinant.
Bah écoutez, tout à fait Fabrice. Alors pourquoi j'ai décidé de proposer cette émission à nos auditeurs? Tout simplement parce que jusqu'à présent, j'ai beaucoup parlé du fonctionnement du cerveau. On a parlé de mémoire, on a parlé d'apprentissage, on a parlé de nutrition, d'impact de la nutrition sur la cognition, etc. Mais finalement, il faut que les auditeurs, chers auditeurs, vous compreniez c'est quoi votre cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne, de quoi il est constitué. C'est que de la physiologie. Donc j'ai voulu poser des mots pour que vous puissiez faire le lien entre le physique, ce qui est physique, physiologique, et ce qui va être ensuite comportemental. Alors, notre système nerveux, il y a plusieurs composantes dans notre système nerveux. On a ce qu'on appelle le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, c'est celui qui va émettre des ordres au système nerveux périphérique, qui lui va juste transmettre les ordres et faire en sorte que les ordres fonctionnent correctement, c'est-à-dire que le corps réponde aux ordres donnés par le système nerveux central. Alors, c'est quoi notre système nerveux central ? C'est composé de l'encéphale et de la moelle épinière. La moelle épinière, tout le monde sait ce que c'est ce qu'il y a dans la colonne vertébrale. L'encéphale, c'est quoi ? C'est tout ce que vous avez, chers auditeurs, dans la boîte crânienne. C'est-à-dire le cerveau à proprement parler, donc oui, votre cerveau, mais aussi deux régions cérébrales qui sont importantes dans votre fonctionnement. C'est le tronc cérébral et le cervelet. Bien évidemment, je prévoirai des émissions dessus pour vous expliquer à quoi il sert. Donc, système nerveux central qui commande, qui envoie l'ordre et qui vous permet de justement d'avoir des mouvements moteurs, de prendre des décisions, etc. C'est le système nerveux central qui va finalement s'en charger et pouvoir envoyer les commandes, envoyer l'ordre. C'est les chefs d'équipe, c'est les chefs d'armée, si vous voulez. Ce système nerveux central, je le redis, tout ce qu'il y a dans la boîte crânienne, le cerveau à proprement parler, le cervelet, le tronc cérébral et ensuite, en dehors de la boîte crânienne, la moelle épinière. Le système nerveux périphérique, c'est quoi ? Ça va être tout simplement le système nerveux qui va permettre que les ordres envoyés par votre encéphale et par votre système nerveux central, en fait, puissent se faire. Il est composé de deux styles de système nerveux périphérique. Celui qu'on appelle somatique. Alors, c'est quoi, chers auditeurs, le système nerveux somatique ? C'est celui qui est utilisé lorsque vous levez le bras. Quand vous levez le bras, c'est un mouvement volontaire. Vous avez décidé de lever le bras, de faire un geste. À ce moment-là, c'est votre système nerveux somatique qui, évidemment, finalement, reçoit l'ordre, certes, du système nerveux central, mais permet à votre bras, à votre jambe, de se déplacer. Suite à ça, on a le système nerveux autonome. Et c'est celui qui commande à nos organes. Donc, celui-ci, il est involontaire. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas vous qui décidez et qui demandez à votre cœur de battre. Ce n'est pas vous qui demandez à vos poumons de respirer. Heureusement pour vous, ça se fait tout seul. Donc, il est autonome. Il agit sans votre volonté consciente. Vous ne vous en rendez pas compte. Mais finalement, ça fonctionne très, très bien, comme pour tous les organes. Et effectivement, c'est ça qui est important. Donc, système nerveux périphérique qui permettent finalement au corps de fonctionner, aux organes de fonctionner, aussi bien au cœur de battre, aux poumons de respirer, au tube digestif de faire le péristaltisme que nous avons vu dans une émission, souvenez-vous, chers auditeurs, qui permettait la progression du bol alimentaire de la bouche à l'anus. Ça va être effectivement le système nerveux autonome qui est composé du sympathique et du parasympathique. Souvenez-vous, nous en avions déjà parlé. Et effectivement, on va aussi avoir des nerfs. Alors, les nerfs, c'est quoi ? On va le voir tout à l'heure un petit peu avec les neurones. C'est des regroupements d'axones. L'axone, c'est un embranchement qui part du corps cellulaire d'un neurone. Mais nous y viendrons tout de suite en deuxième partie d'émission. mais ces nerfs vont être de deux types. Les nerfs crâniens, on a 12 paires de nerfs crâniens. Alors, ne me demandez pas de vous les citer. Je sais bien que la semaine dernière, on a parlé d'oubli, mais vous voyez, malgré la phrase mnémotechnique que j'avais apprise, ben, je ne m'en souviens toujours pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ces nerfs crâniens, par exemple, c'est le nerf olfactif qui va permettre de transmettre l'information de l'odeur à votre cerveau. C'est le nerf oculaire pour la vision. C'est aussi le fameux nerf vague qui permet le péristaltisme, mais qui est aussi impliqué dans d'autres types de comportements, comme le comportement alimentaire, mais pas que, aussi pour le stress. Et effectivement, on a aussi les nerfs spinaux, c'est-à-dire les nerfs rachidiens qui sortent de la moelle épinière et qui vont permettre d'innerver certains de nos organes afin que tout puisse se faire. Donc, nos sphincters qui nous permettent effectivement une miction correcte, c'est-à-dire d'uriner correctement. Pareil pour la défécation. Ça va nous permettre effectivement, bah, tout le corps est innervé aussi par ces nerfs spinaux. Et on sait très bien que si on a une section, Fabrice et chers auditeurs, de la moelle épinière, on sait très bien qu'on peut être atteint de paraplégie ou de tétraplégie. Voilà comment est constitué notre système nerveux. Système nerveux central, système nerveux périphérique, et tout cela fonctionne de manière coordonnées afin que finalement les informations passent de notre système nerveux central à notre système nerveux périphérique et ensuite atteignent effectivement nos organes, nos muscles pour que tout puisse se faire correctement.
Et ben voilà une belle description. J'ai envie de dire c'est une masterclass en ce moment que Cécilia Morès nous donne et on va revenir dans un tout petit instant pour la suite de cette émission. C'est sur Nutri Radio, restez avec nous.
NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Le décryptage du fonctionnement de notre système nerveux. Merci pour les mots de terminologie en première partie d'émission que nous a donné Célia Morès qui est encore avec nous. Et comme chaque semaine, on en profite d'ailleurs. Alors maintenant, si on parle un peu plus du système nerveux, on peut, j'imagine, aller vers les neurones.
Totalement.
Les cellules neuronales.
Là, c'est effectivement, ce qui, cellules neuronales.
Quand on nous dit oui, on a deux neurones.
Les petites cellules grises.
On a toujours dit j'ai deux neurones qui se battent en duel. Je ne sais pas ce que ça veut dire du tout.
C'est pas très gentil de vous dire ça.
Je me doute un peu.
C'est pas très gentil. Mais c'est vrai, pourquoi les neurones? Parce qu'effectivement, tout part des neurones. C'est nos cellules neuronales, hein, les cellules qui sont dans notre cerveau et qui permettent effectivement la propagation de l'influx nerveux et de pouvoir agir. Si vous pouvez lever votre bras, Fabrice, c'est tout simplement, et chers auditeurs, c'est tout simplement que vous avez vos neurones qui sont connectés entre eux. Les neurones, on va le voir, c'est un réseau neuronal comme Internet. Internet est un réseau. Les neurones, ce sont des réseaux de cellules. C'est l'infiniment petit qui peut vous permettre de faire le maximum, chers auditeurs. Donc, le fait de pouvoir planifier une sortie au restaurant, c'est tout simplement parce que vous avez vos cellules neuronales qui s'activent. Le fait de pouvoir raisonner, prendre une décision, c'est grâce à vos neurones. Et comme dirait Hercule Poirot dans Agatha Christie, c'est mes petites cellules grises. Et bien, vos neurones, c'est ça. C'est vos petites cellules grises. Et c'est quoi, les neurones? Constitués de trois parties. Ce qu'on appelle le corps cellulaire. C'est là où il y a toute la machinerie cellulaire, la génétique, les noyaux, etc., le corps cellulaire. Ce neurone-là, il va y avoir ce qu'on appelle les dendrites. Les dendrites, c'est quoi, chers auditeurs? C'est ce qui arrive sur le corps cellulaire. Et ensuite, va partir du corps cellulaire ce qu'on appelle un axone. Ce qu'il faut savoir, chers auditeurs, c'est que le neurone peut être constitué d'un noyau, d'un corps cellulaire, ça c'est certain, de plusieurs dendrites et d'un seul axone. Alors, pour vous rappeler comment est-ce que est constitué un neurone, moi, je dis toujours à mes étudiants, imaginez, le corps cellulaire, c'est comme le neurone, c'est comme un tire-bouchon. On a tous un tire-bouchon chez soi. Les anciens tire-bouchons, vous savez, sur ceux où on appuie et on visse, effectivement, à l'ancienne, on va dire. Vous avez le corps cellulaire, bah, c'est le gros truc au milieu du tire-bouchon. Les dendrites, c'est les deux bras du tire-bouchon. Et l'axone, c'est la vis que vous mettez dans votre bouchon de liège pour le faire sortir. Et là, vous retenez ce qu'est un neurone, c'est typiquement ça. Même morphologiquement, j'allais dire anatomiquement et visuellement, ça ressemble à ça finalement quelque part, si on veut faire une analogie peut-être un peu lointaine, mais quand même. Donc, le neurone va permettre de conduire l'information entre deux, effectivement, neurones. On le verra dans une prochaine émission, je vous parlerai des synapses, qu'est-ce qui se passe au niveau des synapses. Mais finalement, ces neurones vont permettre de transmettre l'information, donc d'acquérir l'information d'un neurone, de la transmettre à un autre pour pouvoir traiter cette information et faire en sorte que vous puissiez penser, planifier, raisonner, prendre une décision, faire du calcul mental, mémoriser et apprendre de nouvelles notions comme vous le faites, chers auditeurs, sur Nutri Radio. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de neurones. Outre la classe anatomique des neurones, ça peu importe, on a trois types de neurones au niveau de leur fonctionnalité. On a le neurone sensitif. C'est quoi le neurone sensitif ? Sensoriel, sensitif. C'est lui qui va capter les informations sensorielles, soit de votre corps, de vos organes, soit ça va être tout simplement les informations qui vont venir de l'extérieur. Par exemple, il y a un neurone sensoriel dédié à la vision qui va permettre d'envoyer les informations vision des ondes lumineuses que vous avez captées de l'extérieur. Donc, neurone sensoriel qui envoie finalement les informations des organes, des muscles, vers, on va dire, le système nerveux central. Ensuite, on a ce qu'on appelle les interneurones. Les interneurones, c'est quoi ? Ce sont des neurones qui vont permettre de traiter, chers auditeurs, l'information. C'est-à-dire que le sensoriel, il n'envoie que l'information. Les interneurones récupèrent cette information, les traitent. Et après avoir traité l'information, ils envoient l'information à nos neurones moteurs, à nos motoneurones, qui peuvent être excitateurs ou inhibiteurs, pour permettre effectivement une réponse motrice du corps. Donc, c'est typiquement le muscle qui va se relâcher, le muscle qui va se contracter, le cœur qui va battre, vos poumons qui vont vous permettre de respirer, au niveau du type digestif, le péristaltisme, avec le fameux système nerveux entérique que nous avons vu dans une précédente émission il y a quelque temps. Donc, vous voyez, chers auditeurs, ça se passe comme ça. Trois types de neurones avec trois fonctionnalités différentes. Un neurone sensoriel qui capte l'information sensorielle pour l'amener au niveau du système nerveux central. Des interneurones qui permettent de traiter l'information. Et ensuite, évidemment, ces interneurones vont envoyer l'information à d'autres neurones, les neurones moteurs, motoneurones, qui vont permettre effectivement d'apporter une réponse motrice, effectivement, à l'ordre envoyé. C'est-à-dire qu'ils vont être juste, ils vont juste répondre aux ordres, ils vont juste exécuter l'ordre envoyé par les interneurones. Et évidemment, la propagation de l'influx nerveux, chers auditeurs, se fait via l'axone, et ces axones peuvent être plus ou moins rapides. Plus l'axone sera gros, plus la transmission de l'information sera rapide. En fait, il y a plusieurs types d'axones au niveau de la grosseur. Imaginez, soit vous avez une autoroute, vous allez à 110 km/h, soit vous êtes sur une départementale, et si je ne me trompe pas, c'est dans les 80 km/h. Mais vous voyez bien l'idée, c'est que plus il sera gros, plus l'information, évidemment, sera rapide, puisque, évidemment, ça ira beaucoup plus vite. Imaginez l'autoroute ou imaginez une voie départementale. Et à savoir que les neurones, on a des axones aussi plus ou moins longs, ce qu'il faut savoir, avec des axones qui sont localisés que dans la même région cérébrale, donc des neurones qui restent que dans la localité de leur région cérébrale, et des neurones qui ont des axones qui vont dans d'autres régions cérébrales beaucoup plus profondes, avec des axones beaucoup plus longs. Là aussi, ça existe. Voilà à quoi sert un neurone, à transmettre l'information et à permettre à votre cerveau de fonctionner correctement, et notamment au niveau comportemental, de penser, de réfléchir, de prendre une décision. Ce sont juste des toutes petites cellules qui existent et cet infiniment petit peut vous faire faire de grandes choses.
Merci Célia. Il paraît que d'ailleurs les personnes dont qui s'appellent Michael, qui ont le prénom Michael, eh bien, ont plus d'axones que les autres. Est-ce que vous confirmez ?
Aucune idée.
Parce que
ça, je ne sais pas.
Eh ben, vous savez quoi ? Parce que Michael Axon. Bref, nous mettons une toute petite pause entre nous pour digérer.
Voli jeu de mots, Fabrice. Voli jeu de mots. Je vous la ressortirai, celle-ci.
Pour oublier tout ça, on va marquer une toute petite pause. Et on se retrouve juste après ceci.
La sphère neuro. Célia Morès. Sur Nutri Radio.
Ah, la qualité des émissions. La qualité, c'est ce qu'on veut. La qualité avec Célia Morès qui, à chaque fois, nous éblouit dans ses explications. Et là, nous sommes en pleine découverte de notre cerveau. Nous avons vu la composition de notre système nerveux. Nous avons évoqué les neurones. Et maintenant, alors là, accrochez-vous, chers auditeurs, parce que ça, je suis persuadé que on n'est pas forcément très nombreux à les connaître. Enfin, peut-être que vous aussi, mais dans un instant, vous allez nous le dire. Les cellules gliales. C'est quoi les cellules gliales, Célia ?
Bah écoutez, chers auditeurs et chers Fabrice, les cellules gliales, ce sont les autres cellules qui se situent au niveau de notre cerveau. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de nos neurones, peu des cellules gliales, pourtant elles ont un rôle très très important. Déjà, elles comblent les vides finalement entre les neurones. C'est aussi celles qui permettent de nourrir nos neurones, d'évacuer les déchets, parce qu'évidemment il y a des déchets au niveau du cerveau, les neurones vont créer des métabolites, etc. Il faut les évacuer, c'est grâce à nos cellules gliales. Gliales, pourquoi? Ça vient de glu, ça forme une espèce de glu. Donc on va avoir plusieurs sortes de cellules gliales. On va avoir ce qu'on appelle la macroglie et la microglie. Alors la microglie, c'est quoi? Ce sont juste des cellules phagocytaires. Elles s'appellent cellules phagocytaires. C'est celles qui vont permettre d'éliminer les déchets s'il y a une lésion au niveau neuronal. Ça va permettre aussi d'éliminer s'il y a eu effectivement, des substances qui ont passé la barrière hémato-encéphalique, donc qui ont passé la barrière du cerveau qu'elles n'auraient pas dû passer, pour les éliminer, pour éviter toutes les infections. Donc ces cellules phagocytaires, c'est simple, c'est le système immunitaire de notre cerveau, comme on a un système immunitaire dans le corps qui va éliminer toutes les bactéries, tous les petits virus, toutes choses qu'il faut évacuer pour éviter de tomber malade. C'est d'éviter une infection. Ça, c'est une chose. Mais on a la macroglie. La macroglie, on va avoir notamment les astrocytes parce qu'elles ont des formes d'étoiles, et elles vont servir évidemment à éliminer effectivement aussi le surplus des neurotransmetteurs. Pourquoi ? Nous y viendrons dans une émission, Fabrice et chers auditeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les neurones vont produire, sécréter des neurotransmetteurs, comme on en a déjà parlé, la sérotonine qui est impliquée dans le comportement alimentaire, mais aussi dans la dépression, la dopamine dans la motivation, mais aussi la vigilance et même la mémorisation, l'acétylcholine, la mémorisation, etc. Mais ces neurotransmetteurs, au bout d'un moment, quand ils ont fait leur action, il faut éliminer ce qui reste. Il faut éliminer les déchets, un petit peu lorsqu'on jette finalement ce qui reste dans l'assiette, parce que les pelures de pommes, ça, il faut les jeter dans une poubelle. Et bien là, c'est exactement pareil. Et les astrocytes, notamment, vont s'en charger pour faire en sorte que, évidemment, il n'y ait plus cette accumulation de déchets, de neurotransmetteurs, de produits dégradés au niveau des neurones. Ça va permettre donc aussi de soutenir, de nourrir les neurones. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est les astrocytes qui vont recevoir les informations des capillaires sanguins, puisqu'on a des vaisseaux capillaires au niveau de notre cerveau. On le sait bien, puisqu'on peut faire des AVC, c'est justement ça. Et effectivement, reçoivent les nutriments nécessaires aux neurones, et c'est eux qui vont pouvoir nourrir les neurones. C'est pas les neurones qui le reçoivent directement. Donc, ça permet de nourrir, de maintenir, d'aider au développement cérébral. Donc, elles ont un rôle très important. Mais au départ, Fabrice et chers auditeurs, on pensait finalement que ces astrocytes, ces cellules gliales, ne servaient qu'à ça, qu'à maintenir la bonne intégrité des neurones, qu'à nourrir les neurones, etc. On sait aujourd'hui, chers auditeurs, qu'elles ont un rôle beaucoup plus important. Elles vont être impliquées dans le comportement alimentaire. Pourquoi ? Nous avions fait une émission, et je vous invite à aller la revoir en podcast, sur le comportement alimentaire avec des neurones, les neurones PONC, situés au niveau de l'hypothalamus, qui sont des neurones anorexigènes. Mais pour qu'ils fassent leur effet anorexigène, il faut que les astrocytes qui les recouvrent se rétractent. Si elles ne se rétractent pas, les neurones PONC ne peuvent pas faire, évidemment, leur action anorexigène. Donc, vous voyez que, chers auditeurs, le rôle des astrocytes, comme il va être important, il va faire plus que donner des nutriments aux neurones, plus que maintenir l'intégrité des neurones et servir de maintien, de soutien à nos neurones. Il va servir à quoi aussi ? À permettre un comportement alimentaire adéquat. Et je vais même plus loin. Figurez-vous qu'aujourd'hui, on sait, c'est un article qui est paru justement dans Cerveau et Psycho, donc c'est une revue vulgarisée, certes, mais je suis en train d'essayer de trouver l'article écrit par les chercheurs, donc ce que j'appelle l'article premier dont les personnes se sont servies pour écrire cet article dans Cerveau et Psycho. C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'apparemment, et même chez l'homme, les astrocytes, s'il y a des problèmes de lésions neuronales, de problèmes au niveau de certains neurones, pourraient se différencier en cellules souches pour former de nouveaux neurones. Vous imaginez si c'est possible? Si réellement on peut mettre ça, on peut regarder ça et faire quelque chose de ça, quelle avancée scientifique ça va être? C'est que les astrocytes pourraient devenir des neurones et permettre de combler une perte neuronale due à des lésions, notamment en cas d'AVC, etc. Ça peut être quelque chose de très intéressant, de magique. Reste à creuser puisque c'est nouveau, mais vous voyez que les astrocytes ont vraiment un grand pouvoir et ne servent pas simplement ces cellules gliales, ne sert pas simplement à maintenir l'intégrité des neurones, mais ont réellement un pouvoir beaucoup plus important que celui que l'on pensait il y a quelques années.
C'est effectivement, c'est incroyable et on pense, enfin moi personnellement, je sais que ma maman a fait une mauvaise route alimentaire il y a plusieurs années et donc elle a perdu quelques neurones. Et donc ça n'a pas été sans incidence, bon voilà, elle s'en est sortie miraculeusement, mais bon, je vous raconte ma vie, chers auditeurs, mais sans lien avec ce que dit Célia. Et on lui a toujours dit, non mais, allez voir les spécialistes, ça fait des années qu'elle allait voir des spécialistes, on lui dit toujours, non mais les neurones, quand c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Et donc elle, en fait, elle a stagné dans un état qui est resté plus ou moins le même pendant toutes ces années, parce que bah voilà, on n'avait pas forcément ces connaissances, donc j'espère que on va pouvoir avancer rapidement là-dessus pour toutes les personnes qui en ont besoin. Et ça, c'est beau le progrès. Dans certains cas, c'est beau, n'est-ce pas, Célia?
Ah, totalement, mais en plus, j'irai plus loin. C'est vrai que maintenant, ils viennent de trouver ça. Mais il faut savoir que, déjà, vous dites, Fabrice, en prenant l'exemple de votre maman, mais chers auditeurs, on disait il y a quelques temps, et maintenant c'est un mythe, hein, c'est un neuromythe, c'est pas vrai du tout, qu'on essaie avec un pool de neurones et qu'à partir de l'âge de 25 ans, on commence à les perdre et qu'il n'y avait plus de possibilité d'avoir de nouveaux neurones. C'est faux aujourd'hui. On sait aujourd'hui que la neurogénèse et la formation de nouveaux neurones continuent tout au long de la vie, et notamment au niveau de l'hippocampe, la région qui est impliquée dans la mémoire à long terme et dans les apprentissages. Donc, c'est une excellente nouvelle. Sur ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Et ça, il faut que les gens se rendent bien compte que quand il y a un problème au niveau, par exemple, d'une lésion cérébrale à un endroit et qu'on peut perdre certaines capacités, ben, le cerveau est apte, par la plasticité synaptique, à utiliser d'autres parties du cerveau pour venir pallier ce déficit-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des tas de gens qui ont réussi à montrer des plasticités synaptiques et à retrouver, effectivement, malgré la lésion, la parole, à retrouver certaines fonctions qu'ils avaient perdues en raison d'une lésion, d'une AVC, tout simplement grâce à la plasticité synaptique. Après, ce qu'on ne sait pas, par contre, et ça, c'est dommage, c'est pourquoi une petite lésion, parfois, on ne peut rien retrouver, il n'y a pas de plasticité synaptique, on ne retrouve pas la fonction perdue, entre guillemets, ou mal, alors que parfois, on peut avoir une grosse lésion, et ça peut fonctionner quand même. Ça, c'est quand même un autre point qui reste encore un peu plus compliqué. Mais effectivement, le cerveau, non, il y a la plasticité synaptique. C'est ça aussi important. Mais là, sur les astrocytes, je pense que ça pourrait être une belle, belle avancée de voir si ça peut réellement être le cas. Jusqu'à quel point, Fabrice et chers auditeurs, on pourrait utiliser ça pour des personnes qui perdent effectivement des neurones avec des lésions qui sont impactantes dans leur vie quotidienne. Ils ont appelé ça l'astrogliose. Ça s'appellerait l'astrogliose. Donc, c'est à creuser et j'espère pouvoir, si les chercheurs nous entendent et qu'ils ont l'article, j'aimerais bien effectivement lire leurs travaux de manière autre que sur la revue vulgarisée, bien évidemment, pour savoir effectivement tout ce qui se passe en profondeur dans cette astrogliose.
Eh bien, merci beaucoup, Célia, pour encore une fois toutes ces informations, pour ces partages. Émission retrouvée en podcast à partir de dimanche 18h. On se retrouve la semaine prochaine, Célia.
Mais très volontiers, Fabrice, avec grand plaisir, et chers auditeurs aussi, bien évidemment.
Plaisir partagé par tout le monde. Retour de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
La sphère neuro, Célia Mores sur Nutri Radio.